Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Voici la commission Normando-Ferrandaise.
Alors, pour les commissaires, un sujet de discussion ce matin, la nouvelle étude présentée par l'Institut du Québec qui nous apprend que les écarts de revenus entre les hommes et les femmes se manifestent même durant la première année sur le marché du travail après l'obtention d'un diplôme collégial ou encore universitaire et qu'au fil des ans, l'écart se creuse. Est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que les femmes ont tendance à moins négocier ou moins bien négocier leurs conditions de travail? Luc?
Bien, écoute, à la question est-ce qu'ils négocient moins leurs conditions de travail, on ne sait pas. Ça, c'est une hypothèse, c'est une question posée dans le cadre d'une étude, mais qui ne s'appuie pas sur des données. Les données qui ressortent sont très bonnes, sont très révélatrices. Une très bonne étude, solide, qui permet de comprendre l'écart salarial, un écart salarial à peu près de 9 % là, en règle générale, et qui a fait un traitement pour essayer d'isoler deux, trois variables. D'abord, le fait d'avoir des enfants et le fait les choix familiaux. En éliminant ça, on arrive en suivant des cohortes qui ont commencé en 2013 puis jusqu'à 2018, des cohortes de personnes qui arrivent sur le marché du travail, et en les suivant, puis en croisant des données, on est arrivé à la conclusion que il y a une différence dès le départ, une différence qui peut atteindre 19 % qui est à peu près généralement moindre, ça dépend du domaine, là, mais et qui est liée à des choix, d'employeurs, des choix de carrière, et ça, je trouve ça extrêmement révélateur. Enfin, on a une explication vraiment solide sur le fait que les hommes et les femmes ne choisissent pas les mêmes domaines d'emploi et que ça se traduit par des écarts de salaire. Tu sais, une caricature dans le New Yorker qui avait fait beaucoup de bruit aux États-Unis l'an passé, il disait que dans chaque université américaine, il y avait un département d'études féministes qui se posait la question de savoir pourquoi il n'y a pas plus de femmes qui étudient en sciences. Et c'est une caricature. C'est une caricature un peu agressive, là, mais c'est vrai. C'est que la question qui est posée, c'est pourquoi ces femmes-là qui sont en sociologie, mettons, ne traversent pas la rue et ne vont pas étudier en sciences? Bien, parce qu'elles en font le choix. C'est parce qu'elles ne veulent pas ça.
Mais je me demande si c'est encore vrai, parce que peut-être dans certains secteurs, mais je regarde en médecine.
En médecine, en droit, etc. C'est des 75 % parfois. Là.
Nathalie.
Mais bravo, chercheurs. Est-ce qu'on doit se désoler en 2022 qu'il y a encore des écarts de salaire entre les hommes et les femmes? La réponse, c'est oui. Par contre, l'étude ne nous donne pas de réponse concrète sur combien de femmes sont touchées. Au Québec, les employés sous convention collective ou décret, c'est à peu près là, 40 % La présence syndicale, c'est à peu près 40 % Donc, on peut présumer qu'il y a 60 % d'employés qui pourraient peut-être être touchés par ce résultat. Mais on ne sait pas quoi concrètement. Là, lorsque tu poses la question, Paul, est-ce que les femmes sont moins revendicatrices, sont moins aptes à négocier leur salaire dans le milieu de travail? Sans tomber dans le gros préjugé, là, je dirais qu'effectivement, de façon générale, les femmes, elles sont peut-être moins vindicatives que les hommes, un peu moins agressives. Par contre, ce que je constate, c'est que chez la plus jeune génération, dans les trentenaires, là, les jeunes femmes qui sont sur le marché du travail sont plus, elles, assumées. Oui, revendiquer une augmentation de travail semblerait que ça pose pas problème pour certaines. Est-ce que je peux vous livrer le fond de ma pensée par rapport
Bien
à
sûr.
Ces résultats? Moi, je suis un peu fatiguée de ce genre d'études. Je vais vous le dire, puis là, c'est en dehors du politically correct ce que je vous dis, là, puis ça, là, les femmes vont peut-être me lancer des tomates ce matin. Je trouve qu'on tourne en rond. Ça, oui, c'est une étude fort intéressante, mais combien de fois on a eu des études pour dénoncer, bon, les difficultés pour les femmes d'atteindre le plafond de verre? C'est encore une réalité qui existe. Mais lorsqu'on propose comme solution de dire, bien, il faudrait peut-être augmenter le congé de paternité pour réduire les écarts de salaire, je me dis, OK, oui, mais à quel prix? Puis deuxièmement, on évacue une autre réalité. Celle des femmes qui continuent d'être discriminées par rapport à la couleur de leur peau. Je pense au fait qu'il y a un aîné sur trois au Québec qui vit avec 20 000 $ par année. Alors, je comprends qu'il faille réduire les écarts de salaire, mais est-ce qu'il faut les réduire à tout prix? Puis est-ce que, dans le fond, c'est pas un combat perdu d'avance dans le sens où parce qu'effectivement, les femmes vont composer avec le congé de maternité, est-ce que les femmes sont pas, dans certains secteurs, condamnées d'une certaine façon à vivre avec un salaire moindre que les hommes? Est-ce qu'on peut dire ça sans susciter une révolution puis une guerre au Québec, là? Je pose la question.
Ben, moi, je suis d'accord avec toi, Nathalie, parce que cette étude-là en particulier, regarde, elle met 5 variables sur la table pour voir, pour identifier la différence. Et dans ces 5 variables-là, là, il y en a 3 qui sont liées à des choix personnels. Le domaine d'études, le secteur d'activité de l'employeur, les choix familiaux.
Ben voilà.
Donc, si tu choisis d'étudier en cinéma, puis que là, il faudrait ce qu'on dise aux filles, par exemple, à nos jeunes filles, ben écoute, laisse faire le cinéma, là, tu ferais beaucoup plus d'argent si tu vendais des pompes industrielles dans les alumineries.
Wow.
À la limite, sois représentante de pompes à chaleur sur la route, mais pas le cinéma. Penses-tu qu'elle va t'écouter?
Ben non, on va t'envoyer chez le diable.
Ben voilà,
bien.
C'est ça. Ouais. Donc, il y a des choix.
Par contre, on a fait
nous autres ici. Non, mais, moi, si j'avais étudié en droit, là, ouais. Comprends-tu que j'aurais une maison Outremont aujourd'hui?
Non, mais attends. Mais je vais te dire une chose. Il y a une chercheuse, une des co-auteurs là, qui était avec nous hier. Puis elle, une des hypothèses, puis je vous la lance. Mettons que toi, Luc, t'es avocat, puis Nathalie est avocate.
Oui.
Toi, Luc, t'es au cash, tu veux ta grosse maison. Fait que là, tu t'en vas dans un grand bureau. Puis t'as la même formation que Nathalie. Mais tu décides que tu vas travailler des heures, que tu vas avoir ce qu'on appelle les heures chargeables, facturables, puis tu vas faire 1 million par année. Nathalie, qui a la même formation, a dit non. Moi, je veux travailler moins, puis je veux travailler, par exemple, à l'aide juridique. Je veux avoir une pratique différente parce que j'ai des choix de vie.
Il n'y a pas de problème.
Ben, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, l'écart, ce que l'auteur disait, c'est que des femmes vont beaucoup, quand vient le temps de choisir la job, tenir compte de facteurs que des gars vont moins considérer comme une meilleure qualité de vie.
Ben absolument. Puis est-ce que c'est la femme qui fait le mauvais choix, tu penses?
J'ai pas dit ça.
C'est ça. Moi, je peux te dire que je trouve que c'est la femme qui fait le bon choix, là.
Ben,
parce que la personne qui choisit de travailler jour et nuit pour augmenter son nombre d'heures facturables, là, et ça existe, là, juste pour avoir plus d'argent, c'est clair, tu sais. Il y a un livre américain, j'ai oublié son titre, mais en gros, il se posait la question, comment on fait pour devenir riche? Puis la réponse, c'était, faut que tu veuilles. Puis, faut que tu veuilles tout le temps, là. Le soir de Noël, là, faut que tu veuilles devenir riche. Le jour de l'an aussi, pense à ça, pense à devenir riche. Tout le temps, tu vas finir par devenir riche. Mais c'est ça, ce sont des choix. Puis le gars qui choisit, par exemple, d'étudier dans ce domaine-là, puis de défendre les cigarettiers sur la question de la nicotine, jour et nuit, pour gagner son procès, pour devenir riche, il va devenir riche!
Ouais, mais je veux m'exprimer là-dessus, là, l'exemple de l'avocat. Là.
Ouais.
Par contre, ce qui serait discriminatoire et insultant, c'est que Luc et moi, mettons, dans un même bureau, on n'est pas le même taux horaire. On fait le même travail. Mettons, Luc est à 200$ de l'heure, puis moi, je serai à 125, puis on a le même nombre d'années d'expérience. Là, on pourrait lever la main puis dire « Objection, votre honneur ». L'autre chose, ce qu'il faut dénoncer, c'est une jeune femme qui veut étudier en sciences, qui a des obstacles devant elle. Par exemple, une femme qui veut travailler dans le secteur de la construction, qui a des écueils sur sa route. Il faut, comme société, s'organiser pour, tu comprends-tu, mettre de côté tous ces obstacles pour faciliter l'ascension de ces jeunes femmes. Parce que l'étude, ce qui est intéressant, dit, premièrement, les écarts de revenus se résorbent depuis 2010, puis elle dit, en 2015, il n'y avait plus de femmes au Québec qui avaient obtenu un diplôme collégial, un baccalauréat puis une maîtrise. On est à la parité à peu près pour le doctorat, mais remarquez, plus de femmes en médecine, plus de femmes dans les facultés de droit, plus de femmes dans les facultés d'administration. On a fait des progrès extraordinaires. On peut-tu parler des femmes au Québec qui gagnent plus que leurs conjoints? Il y en a pas mal, Nathalie, plus qu'on pense.
Nathalie, quand j'ai négocié mon salaire avec la direction, j'ai rédigé juste une chose. Moi, je veux gagner la même chose que Nathalie Normandeau. Ils m'ont dit, voyons donc.
Et moi, j'ai dit, je vais avoir le même taux horaire que Luc Ferrandez. Tu vois, c'est ça que j'ai dit. Ben, tu vois, toi et moi, lorsqu'on fait la commission ce matin, on est payé le même, on a le même cachet. Tu vois, mais c'est correct parce que si tu avais été payé plus cher que moi, ou même l'inverse, si moi j'avais plus que toi, effectivement, on aurait tous les deux raisons de revendiquer une discrimination. Alors, c'est pour ça que je dis, il faut aller au-delà de toujours. J'ai l'impression qu'on est toujours dans le même discours.
Pour aller un peu dans ton sens, Nathalie, il y a quand même une statistique intéressante qui a été citée dans un article du Devoir qui s'appelait « L'ascenseur social fonctionne mieux pour les femmes ». Entre 1977 et 2015, la proportion de femmes qui gagnent plus que leur mère, ont changé même de statut social, là, est de 40 %. C'est 40 % des femmes qui gagnent plus que leur mère. et c'est seulement 28 % des hommes. Donc, le gain est beaucoup plus élevé. Les femmes progressent dans la société.
Oui, bien voilà. Mais là, j'ai envie de te dire ceci. Peut-on parler de ça un peu plus dans notre société? Parce que lorsqu'on parle des écarts de salaire hommes-femmes, les femmes sont toujours désavantagées. Honnêtement, c'est pas très stimulant pour les jeunes femmes qui sont sur le marché du travail et qui souhaitent progresser. Je me dis, si on envoyait des messages plus positifs, là, tu comprends? C'est comme, oui, parlons de ça. Puis posons la question aux hommes. Est-ce qu'il y a encore des préjugés? Est-ce qu'il y a des hommes qui sont encore inconfortables au Québec avec le fait que leur conjointe gagne moins qu'eux? Ça pourrait être intéressant de poser la question.
On s'arrête, là-dessus. Oui, Luc, là, vas-y donc, pour conclure.
Non, juste un petit point là, sur les choix. Est-ce qu'on peut influencer sur les choix en bas âge, les enfants, les introduire plus à la science, notamment plus les femmes à la science, parce qu'il semblerait que c'est en bas âge que ça se décide. Il y a sans doute des pistes là, mais je sais pas si ces pistes-là, c'est quoi les... Après des années de travail sur ces pistes-là, est-ce qu'on va se rendre compte finalement que c'est quand même une question de choix, puis que tu peux pas influencer tant que ça le choix d'une personne à suivre?
Bien sûr. Au retour, rapport des commissaires, puisque nous sommes vendredi, véhicule en panne sur la 10.
La commission Normando-Ferrandaise.
Alors, le rapport des commissaires, c'est Nathalie qui commence.
Oui, mettons les drapeaux en berne, chers amis. Le ministre des Nordiques est au chômage. La presse qui nous a appris que le retour des Nordiques ne sera pas dans la plateforme de la CAQ. Moi, je me suis demandé, alors, pourquoi toute cette mise en scène? Rappelez-vous, là, on a fait beaucoup de bruit autour d'un possible retour des Nordiques ou d'une équipe de la Ligue nationale à Québec. Et là, ça m'a un peu embêté parce que le ministre responsable des Nordiques, Éric Girard, qui est aussi ministre des Finances, a déclaré « Le Québec a la capacité d'avoir une équipe de hockey à long terme ». Là, je me suis dit, ça veut dire quoi? Je sais pas si notre ami Alain Crête a un scoop là-dessus ou enfin ça des infos, mais c'est un peu spécial.
C'est-à-dire qu'Alain ne croit pas vraiment.
Ah, bien, je suis dans son club, moi. Je suis dans son club.
Ouais. Un club de la Ligue nationale va atterrir à Québec, disons, dans un avenir rapproché.
Mais tu vois, le ministre persiste et signe. J'ai pensé aux pauvres amateurs des Nordiques qui croient encore à un retour possible d'une équipe de la Ligue nationale.
Mais le ministre, lui, dit que le marché peut soutenir un club, ce qui est pas faux. Mais la question, c'est est-ce que la Ligue nationale veut vraiment voir la ville de Québec? Pas certain. En tout cas, ça, c'est...
Enfin. Mais elle a travaillé plus fort chez Miracle Mart et chez Dad Giovanni qu'à l'Assemblée nationale. On peut dire que la députée Claire Samson a le sens de la clip. J'écoutais hier, je la fais pas dans la langue de bois. La madame, elle a déclaré « Le travail de députée à l'Assemblée nationale, c'est la job où j'ai travaillé le moins de ma vie. » J'ai dit « Wow, Claire, quelle belle info pub pour les députés de l'Assemblée nationale. » Elle a même parlé des députés plantes vertes. Honnêtement, c'est plutôt pathétique comme sortie. Je voyais Éric Duhaime, son chef, écoute, l'air complètement, tu sais, on dit la mâchoire à terre. Là, il se demandait où est-ce qu'elle s'en allait avec sa déclaration. Je trouve ça triste pour les électeurs, entre autres, d'Iberville, qui ont vu son passage de la CAQ au Parti conservateur. Et je voudrais rappeler ce matin à Mme Samson que son salaire est payé avec les taxes et les impôts des contribuables. La médaille d'or cette semaine, pour moi, va à la presque centaine de gymnastes du côté américain, entre autres Simone Biles, qui poursuivent le FBI pour 1 milliard de dollars. Ils ne poursuivent pas la police là, du village, là, le FBI, dans le fameux scandale du médecin sportif Larry Nassar. Est-ce que vous avez vu le documentaire sur Netflix sur le scandale des gymnastes?
Oui.
C'est vraiment
Docteur
incroyable.
Docteur Nassar, je n'ai pas vu. Moi.
Docteur Nassar, oui, je dis Nassar. Nassar, ben Nassar là, il a agressé plus de 250 gymnastes. Et cette poursuite à l'endroit du FBI, c'est... Je trouve que les filles ont vraiment du goût. C'est une première, selon moi, dans l'histoire qu'on poursuive le FBI pour un montant comme celui-là. En fait, elle reproche au FBI d'avoir... Elle dit ils savaient, les policiers, les enquêteurs savaient pour Nassar. Ils n'ont rien fait, puis ils sont tentés de cacher l'information aussi avec la Fédération américaine de gymnastique. Alors, une affaire à suivre. Sonia Lebel, qui semble avoir plus d'atomes crochus avec Instagram qu'avec les textos. En fait, on la voit souvent sur son compte Instagram, avec sa scie mécanique, puis sur la motoneige, le casque de fourrure. Ça fait plutôt ludique comme photo, mais là, moi, c'est une histoire qui est venue me chercher dans le sens que j'ai... En fait, c'est une histoire qui m'a sidérée. On a appris cette semaine que la ministre du Conseil du Trésor, mais aussi responsable des affaires intergouvernementales canadiennes, a effacé les tous les textos qu'elle a envoyés à son vis-à-vis à Ottawa, qui est Dominique Leblanc, tous les textos qu'ils ont envoyés depuis presque 4 ans ont tous été effacés. J'étais renversée. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai jamais vu ça, une ministre qui négociait avec Ottawa par texto. Et honnêtement, ça fait pas très sérieux, là. On se croirait dans les ligues mineures. Et elle s'est fait poser beaucoup de questions à l'Assemblée nationale. Remarquez, je dis ça, puis en même temps, on a appris ce matin qu'il y a une entente avec le syndicat de la fonction publique du Québec. Alors ça, c'est une bonne nouvelle pour tous les fonctionnaires qui attendaient maintenant depuis quoi, 2 ans, que leur convention collective soit renouvelée. Donc, une fin de session mi-figue, mi-raisin pour la ministre, la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel.
Parfait. Luc?
Moi aussi, Claire Samson, ça m'a frappé sa déclaration quand elle dit qu'elle a travaillé plus fort au Da Giovanni. Je voulais lui dire, on avait remarqué. Je pense pas que quelqu'un aurait pu avoir une telle dégaine que celle qu'elle a montrée à l'Assemblée nationale au Da Giovanni en gardant son travail trop longtemps. Mais au-delà de ça, là, c'est vrai qu'il y a des députés qui travaillent très, très, très fort, qui passent leur vie. Et il y en a qui font pas grand-chose. Souvent, je vais remarquer, moi, c'était dans les châteaux forts. Dans les châteaux forts, là, des gens qui sont élus sans aucune concurrence, puis élus fois après fois après fois, quelle que soit la performance du parti ou leur propre performance individuelle, ça pousse pas à se dépasser, ça, c'est certain. Et je sais pas s'il y a une solution à ça, mais en tout cas, oui, ça existe. J'avais pas prévu en parler, mais comme tu parles de Sonia Lebel avec ses textos, t'as vu c'était quoi le type d'accusation que Véronique Yvon formulait, hein? Ce qu'elle disait, c'est que si je pense que ce qui est à craindre, c'est qu'il y a eu des tentatives de la part de Mme Lebel pour obtenir des concessions d'Ottawa et qu'elles ne sont jamais venues. Et c'est facile de les effacer, de dire, parce que ça apparaîtrait au passif de la CAQ, là, dire vous avez essayé de négocier, mais ça n'a rien donné. Alors, quand vous repartez en élection en disant, on va négocier, là, maintenant, on va négocier. Oui, mais vous avez essayé, puis ça n'a rien donné. Alors, peut-être que le fait qu'il y a eu tant de textos qui aient disparu ne c'est pas tout à fait aussi innocent. Ce n'est pas juste parce qu'elle a été maladroite ou parce qu'elle n'y a pas pensé. Bon, en tout cas.
Mais elle a dit, Luc, que je ne les ai pas effacés de façon délibérée. Donc, si elle ne les a pas effacés de façon délibérée, comment. Tu comprends-tu?
Ouais.
Quel était le motif pour les effacer?
Ben oui,
puis, deuxièmement, les textos qui ont été envoyés, là, ça ne lui appartient pas. Ce n'est pas des textos personnels. Là.
C'est un peu comme
les documents là, tu sais, classifiés ou les.
Ben oui, tu te rappelles de l'affaire Hillary Clinton?
Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, absolument.
Je rajoute, parce que je viens de le lire ce matin, le maire de Boucherville qui veut introduire un code de conduite et de déontologie.
J'étais sûr que tu allais en parler.
Ah, écoute-toi. Il veut qu'on inscrive la loyauté aux décisions du conseil dans le code de déontologie.
Saint-Bruno de Montarville, oui.
Oui, ça se peut-tu, ça? Moi, je pense que c'est le genre de déclaration qui aurait été impossible avant la légalisation de la marijuana. Il a zéro expérience, ce gars-là. C'est d'où il sort? C'est le même qui a dit, on va en faire de la densité, mais pas au centre-ville. Simonac, en tout cas, bon.
Prêtons allégeance à M. le maire.
Oui, c'est ça. Ben écoute, wow. En tout cas. Éric Duhaime qui déclare qu'il veut faire rentrer la grogne au Parlement. Bon, on avait besoin de ça. Je trouve plus de grogne. Moi, je pense que la grogne, c'est nécessaire. C'est spontané là, quand il y a des décisions aberrantes, puis ça arrive. Mais de faire de ton point de départ la grogne, c'est pas comprendre ce qui se passe dans une assemblée ou dans un gouvernement ou dans une administration. Tu sais, il y a 80% de ce qui va se passer. Monsieur Duhaime va sans doute être élu, là, j'imagine. Il va voir qu'il y a 80% de ce qui va se passer qui va être décidé, qui ne suscite pas de grogne, qui parfois qui suscite une différence, une divergence d'opinion, mais de pas de la grogne, parce que ça s'appuie sur des argumentaires. Bon, il reste qu'il y a des décisions qui suscitent de la grogne, mais là, c'est un produit final, c'est pas un produit initial.
Mais ça sonne comme une menace, son affaire. C'est ça qui est dérangeant.
Oui, mais
puis l'autre chose, il va se rendre compte que faire 33 jours de campagne sur la colère, il va peut-être trouver le temps long, là.
Oui, c'est ça. C'est effectivement, là, l'intensité. Là. Puis d'ailleurs, on n'a pas besoin de ça tout le temps. Les électeurs vont y dire. Là. Ils n'ont pas besoin d'opposition systématique à tout et pour tout. Puis d'ailleurs, ce qu'il voulait dire aussi, puis le signaler dans son témoignage, c'était que le gouvernement prenait des décisions depuis 2 mois pour faire oublier la pandémie. Ben, peut-être que le gouvernement prend des décisions depuis 2 mois parce qu'il doit prendre des décisions. C'est un gouvernement. T'sais. C'est pas pour faire oublier la pandémie. Puis il dit, en faisant oublier la pandémie, on oublie la grogne. Vite, on ramène la grogne, on ramène la grogne. En tout cas, gros, drôle de point de départ. Bixi, 92% de hausse en un an. 92%. Ça, c'est Alexandre Taillefer, ça. Moi, je pense. Il est fort en maudit, lui. 92%, là. C'est 8000 déplacements à l'heure de pointe. C'est en train de se passer quelque chose, là. Ça, 8000 déplacements à l'heure de pointe, là, c'est quasiment 2 voies de circulation complètes que tu rajoutes au réseau. Là. Tu donnes de l'air au réseau automobile quand tu fais ça. Ben, bravo. Puis je me demande si Montréal, tu sais, ça veut dire qu'il y a un appétit. Quand tu donnes des moyens, il y a un appétit. Puis Si Montréal donne des moyens, continue de donner des moyens, ça va continuer de se développer, ça pourrait devenir vraiment une capitale du vélo. C'est le temps de peser sur le gaz.
Mais je dirais que ça s'observe aussi.
Ça s'observe, oui.
Ben, en tout cas, il me semble que, tu sais, c'est dur à dire parce que on est quand même, on a eu une période de pandémie, donc il y a moins de déplacements peut-être, là.
Oui.
Mais moi, je sens qu'il y a plus de déplacements. Je vois plus de bixi qu'avant. Ça, c'est clair. Là.
C'est
la perception peut-être, là, mais ça a l'air à se confirmer dans les chiffres. Puis les espaces où on retrouve les bixi, là, souvent c'est vide.
Ben ça, c'est le problème, par exemple. Je ne sais pas si tu as vu dans cet article-là, ils disent que il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont inscrits, qui ont payé, ils arrivent là, il n'y a pas de bicycle.
Ah, alors, peut-être, oui.
Il va falloir qu'ils corrigent ça. Et bien, c'est comme les communautaux, là, il n'y en a plus. Il y en a des heures où tu n'en as pas de besoin, mais il faut vraiment... C'est extrêmement populaire, là. Alors, bravo, une ville en changement. Est-ce que j'ai le temps pour un dernier petit point?
Bien sûr.
Alors, la carboneutralité au Québec, un organisme, trajectoire de 25 ans, qui fait des propositions puis des analyses, puis qui est arrivé à la conclusion que même avec 33 % de véhicules personnels électrifiés en 2030, les émissions vont être juste réduites de 15 %. Fait qu'on est très, très, très loin de la cible de 37,5 % du gouvernement. Et moi, ce que ça devrait me dire, là, je dis à M. Charrette, je sais qu'on arrive vers la fin du mandat, mais il devrait quand même démissionner.
Ton préféré.
Parce que...
C'est ta tête de Turc, hein, c'est...
non, mais attends.
Ah non, avec Pierre Dufour, n'oublie pas Pierre Dufour, le ministre des Caribous.
Oui. Il visait 37,5%, il va être à 15% de réduction. Come on. Il peut pas se représenter en disant qu'il va servir de paillasson au ministre économique pour premier ministre qui puisse s'essuyer les pieds sur lui pendant un autre 4 ans. Là. À un moment donné, le gars a le droit à un peu de dignité, là, un minimum de respect. Là. Moi, je veux pas accepter qu'on se serve de lui encore comme une marionnette consentante. Faut qu'il se trouve une autre chose.
Merci à tous les deux. Bonne fin de semaine. Puis on vous retrouve lundi.
C'est 23.